Bonsoir, c'est un secteur qui retrouve le sourire après une année 2016 morose. 2017 s'annonce sous de bons auspices pour l'industrie touristique. On attend pas moins de 89 millions d'étrangers cette année en France. Et si les Français retrouvent le goût des voyages, les Français également retrouvent le goût des voyages, même si 75% d'entre eux font le choix de rester dans l'Hexagone. Les beaux jours reviennent donc pour un secteur qui représente 8% du PIB, près de 2 millions d'emplois directs et indirects. Mais attention, fragile, car si la France reste la première destination mondiale, elle est seulement troisième en termes de recettes. Elle continue de perdre des parts de marché. La concurrence est rude, on le sait, d'autant que l'image de la France n'est pas très reluisante. Sécurité, cela inquiète encore les étrangers. Qualité d'accueil, souvent, qui reste un des points faibles. Tourisme, ça va mieux, mais comment faire mieux? Intervenez au 01 45 24 7000 jusqu'à 20h.
Stéphane Leneuf, le téléphone sonne.
Pour répondre à vos questions ce soir autour de la table, trois intervenants. Sandra Ouabian, directrice du pôle évaluation société du Crédoc, bonsoir.
Bonsoir.
Jean-Pierre Mas, président des entreprises voyage, bonsoir.
Bonsoir.
Et Jean-Pierre Nadir, fondateur d'Easy Voyage. Une question à tous les trois. Ça va vraiment mieux le secteur touristique? Est-ce que vous êtes satisfait? Est-ce que vous êtes tout sourire ce soir?
Oui.
Jean-Pierre Mas.
Très, très clairement, le secteur touristique va mieux. Les Français vont partir en vacances, aussi nombreux que l'an prochain, globalement, pas plus que l'an dernier, aussi nombreux que l'an dernier. Mais les Français qui ont les revenus les plus élevés, qui partent en vacances par l'intermédiation d'agences de voyage, qu'elles soient physiques ou en ligne, seront plus nombreux à partir. On va avoir une progression, on a actuellement une progression des réservations de l'ordre de 10%, et ça concerne aussi bien le moyen courrier que le long courrier.
Jean-Pierre Nadir.
Oui, Jean-Pierre, effectivement, l'a souligné. Je pense qu'aujourd'hui, tous les acteurs de la chaîne touristique ont le sourire. Et c'est une première. Moi, depuis 10 ans, je passais mon temps à faire des émissions pour expliquer qu'on était en baisse, qu'il y avait plein de choses à faire pour remonter.
C'est vrai qu'on vous a souvent entendu vous plaindre de la morosité ambiante.
Pas me plaindre, dire qu'en fait, effectivement, ça allait moins bien que les politiques ne le disaient. Mais toujours est-il que pour la première année, je ne vois que des gens qui, aujourd'hui, donc sont plutôt contents et heureux. Pour pas vous mentir, il y a un exemple concret. Le taxi qui m'a amené ici, depuis 2 mois, refait un chiffre d'affaires correct, alors qu'avant, ils avaient tendance effectivement donc, à pleurnicher. C'est un bon indicateur de la dynamique touristique.
Il pourra partir en vacances.
Sandra Ouabian, pardon, excusez-moi. Comment on explique effectivement ce regain aujourd'hui du secteur touristique?
En fait, globalement, on est dans une période de reprise après des années assez longues de crise. On l'observe sur le marché du tourisme, mais on l'observe plus globalement quand on demande aux gens est-ce qu'ils ont l'impression que ça va mieux. Comme on nous a dit à certains moments, ils commencent à nous le dire. Alors, on n'est pas dans une période d'euphorie totale, mais néanmoins, on était vraiment sur tous les indicateurs au bas de toutes les courbes. Le moral était vraiment catastrophique ces dernières années. Et depuis 2 ans, on commence à avoir une lente remontée. Donc, globalement, le tourisme, c'est un peu un des budgets qu'on a quand on a une marge de manœuvre. Donc, avec des marges de manœuvre financières retrouvées, on commence à redépenser un petit peu pour partir en voyage.
Jean-Pierre Nadir.
Oui, et puis vous avez aussi donc un phénomène intéressant donc qui est à la fois donc le développement et la montée en gamme donc des campings. Donc on a développé quand même beaucoup d'hébergements donc avec des prix extrêmement accessibles. Donc ça anime forcément le marché. Et puis il y a le retour de la Tunisie qui cette année donc reprend des couleurs et on voit quand même des prix extrêmement intéressants donc à Djerba, à Mamet, après 5 ans donc de 10.
On attend, oui, Sandra Bouillon.
Oui, juste pour tempérer l'enthousiasme général, voilà. Il faut rappeler qu'il y a quand même 4 personnes sur 10 en France qui ne partent pas en vacances. Donc c'est vrai qu'on a tendance à beaucoup parler de ceux qui partent.
60% des gens partent, voilà. 40% restent.
À peu près, voilà. Et puis les taux de départ évoluent vraiment beaucoup suivant les catégories. Et chez les bas revenus, on est à peu près 40% des gens qui partent. Donc l'échelle est inversée, en fait.
Absolument. Et il y a 3 Français sur 10 qui ne partent jamais en vacances. Mmh. Certains parce qu'ils ne veulent pas partir et d'autres parce qu'ils ne peuvent pas partir pour les
essentiels. Et alors, pour compléter sur le sujet, dans ceux qui partent, 50% donc paieront pas d'hébergement, iront dans la famille et chez les amis. Donc c'est sûr qu'on peut effectivement additionner les chiffres de ce type-là. Mais ça, c'est des chiffres qui sont assez constants. Donc ce qu'on peut dire quand même, c'est que cette année, globalement, ça repart et ça reconsomme plus que les années précédentes.
Alors au standard, Stéphane, vous nous appelez de Champoléon. On vous écoute, Stéphane.
Champoléon, dans les Hautes-Alpes.
Dans les
belles Hautes-Alpes.
Tout
et
en soulignant.
On vit beaucoup du tourisme dans les Hautes-Alpes. Alors, je me pose quand même une question, c'est que nous, on est très impactés par le réchauffement climatique. Par exemple, nos stations de ski ont beaucoup de mal, et ainsi de suite. Et en même temps, on continue à dire qu'il nous faut du tourisme de masse. Et j'ai du mal à imaginer, très personnellement peut-être, que l'on peut être en accord avec les accords de Paris et continuer à avoir transporter des millions de personnes d'un bout à l'autre de la Terre, sachant que un transatlantique émet par voyageur à peu près 1,7 tonnes, je crois, de CO2. J'ai un gros doute à ce niveau-là.
Merci Stéphane. On a compris donc la compatibilité effectivement du tourisme de masse avec les accords de Paris, avec l'environnement. Sandra Wabian. Est-ce qu'il y a une conscience écologique qui se développe effectivement dans le tourisme aujourd'hui ?
Alors, c'est pas seulement aujourd'hui, hein, ça fait quelques années qu'on parle du tourisme durable, donc le fait qu'on va faire attention à toutes les étapes finalement de son voyage, en incluant le transport évidemment, mais également les gestes qu'on va faire au quotidien quand on sera en voyage. Il y a effectivement, comme le souligne votre auditeur, une forme de contradiction, un peu entre une société qui aspire à une mobilité quasi frénétique, où on va devoir bouger de plus en plus, partir, découvrir d'autres univers, et en même temps des aspirations écologiques avec lesquelles le tourisme n'est pas encore complètement en phase.
Jean-Pierre Masse.
Oui, je crois qu'il faut avoir
pour
des idées claires
à Stéphane là-dessus. Sur cette contradiction effectivement entre le tourisme de masse et l'écologie, l'environnement.
La contribution du tourisme, du transport aérien, notamment ce que disait notre interlocuteur, à la production de CO2 est extrêmement faible. Il y a des secteurs qui contribuent beaucoup plus fortement que le tourisme. Et irrémédiablement, il y aura deux fois plus de passagers dans les avions dans 15 ans qu'il n'y en a aujourd'hui. Il y en a deux fois plus aujourd'hui qu'il y a 15 ans. Et ça, cette tendance-là, elle est mondiale, elle ne changera pas. Les avions produiront moins de CO2, ils seront moins consommateurs de carburant et le transport aérien sera de moins en moins cher, donc de plus en plus accessible. Il n'empêche qu'on peut avoir une tendance écologique, une fibre écologique, et on fait attention dans tous les actes de sa vie à la consommation.
Jean-Pierre Nadir.
Moi, je crois que la France, justement, donc, a une opportunité sans précédent donc, sur le sujet. Je pense qu'effectivement, donc, les deux ne sont pas incompatibles. Jean-Pierre l'a dit, donc, il y a eu de gros efforts faits dans le transport, c'est-à-dire que le discours qui est tenu là donc, est un discours qui était audible il y a 10 ans, mais depuis effectivement ça s'est beaucoup amélioré. Et puis en France, si vous voulez, donc on développe aussi donc d'autres formes de tourisme, notamment je pense aux maisons d'hôtes, et qui elles donc sont dans une logique où on crée des chaînes autour, donc avec notamment donc de l'agriculture, donc qui vient en complément donc de ce tourisme là et donc en fait on n'est pas que dans le tourisme de masse. Donc c'est vrai que le ski donc en février autour de masse, mais enfin ceci étant, donc l'été, la montagne d'été offre beaucoup de perspectives, et justement donc elle met en avant donc l'aspect écologique donc du tourisme en question.
Et justement, la montagne d'été, Julien nous appelle de Lons-le-Saunier dans le Jura. On vous écoute, Julien.
Oui, bonjour. Moi, je posais un petit peu la question surtout de la vision de nos élus, notamment dans le département du Jura, parce que j'ai deux exemples en fait qui démontrent que eux sont absolument pas dans ces logiques-là, puisqu'on nous propose pour que les gens viennent à Center Park. Donc, avec toutes les nuisances que je pense que ça peut amener, et puis aussi la vision du tourisme que ça apporte. Et d'un autre côté, pour les gens qui veulent partir, on a un aéroport, Doltavo, qui, lui, propose du low cost pour que les gens puissent aller au Maroc ou en Algérie ou pour pas cher, pour 50 euros le billet aller-retour. Donc, il y a aussi, à mon avis, je pense, d'un côté, un problème avec la vision du tourisme des élus. Là, la région vient de voter 200 000 euros de budget pour soutenir l'aéroport d'Oltavo sur du low cost.
Julien nous appelait de Lons-le-Saunier. Jean-Pierre Mazou répond, Julien.
Oui, la réponse est relativement simple. Il faut savoir que l'aéroport de Dole, le Center Park prévu dans le Jura, ça crée des emplois, ça fait moins de chômeurs, ça fait de l'activité économique, et c'est loin d'être négligeable.
En même temps, Julien posait une vraie question, c'est qu'est-ce que l'on peut appeler aujourd'hui le tourisme, et quel développement économique on souhaite à travers le tourisme de masse ou tourisme de qualité ?
La notion de tourisme de masse n'est pas une bonne notion. Je pense qu'on cherche, tout le monde cherche un tourisme équilibré, un tourisme qui ne détruise pas l'environnement, qui soit respectueux des civilisations et des cultures, aussi bien en France qu'ailleurs. Un tourisme qui soit bien intégré. Jean-Pierre Nadir parlait tout à l'heure des maisons d'hôtes. C'est voilà une forme de tourisme extrêmement intégré. Ça existe partout dans le monde. C'est ce tourisme-là qui est recherché par les opérateurs et qui est recherché par les voyageurs aujourd'hui.
Sandra Wabian.
Oui, là aussi, je pense que le tourisme, il est pris dans une mécanique globale de société qui vient un petit peu questionner la consommation très rapide et toujours plus vite, etc. Et qu'aujourd'hui, les gens ont un peu envie d'être à contre-temps. Donc peut-être finalement arrêter un peu le temps, changer aussi, faire un pas de côté sur les distances qui vont être parcourues, et parfois partir en France. Donc ça fait longtemps que c'est le cas, mais partir aussi parfois plus près de chez soi, finalement.
75%, on citera un chiffre, 75% des Français restent dans l'Hexagone, il faut quand même le souligner.
Oui, ouais. Ça, c'est pas nouveau. Hein. Ouais. Ça fait longtemps que les gens restent dans l'Hexagone, qui partent en voiture, donc qui partent chez des amis ou de la famille. Vous disiez ceux qui n'ont pas de sous, mais c'est vrai pour l'ensemble des Français. En fait, une très grande partie part chez de la famille ou des amis, c'est-à-dire en fait à pas cher.
Quelles sont les tendances cette année, Jean-Pierre Nadir?
Alors, en termes de destination ou en termes de produits?
En termes de destination d'abord.
En termes de destination, on retrouve donc toujours un peu les grandes destinations, donc l'Espagne, l'Italie, le Portugal qui maintenant depuis 4 ans donc s'est beaucoup affirmé sur la scène touristique puisqu'ils vont atteindre cette année sans doute 16 millions de touristes, ce qui est pour eux donc très important. La Grèce évidemment, hein, donc la Grèce va dépasser les 23 millions donc de touristes. Et puis est sortie donc de ce classement la Turquie qui était un très grand pays touristique, hein, 36 millions de visiteurs, on n'en parle pas souvent. Et qui cette année fera un très 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 modeste score. Et puis après, en long courrier, on connaît les grandes destinations, notamment les États-Unis, qui évidemment confirment d'année en année donc être une grande destination touristique pour les Français.
Jean-Pierre Masson, on assiste quand même à un regain de développement vers les pays du Maghreb. Là, c'est clair.
Aujourd'hui, les pays du Maghreb, il y a trois pays du Maghreb. Il y en a un qui malheureusement n'est pas touristique malgré son intérêt, c'est l'Algérie. Le Maroc, il n'y a pas eu de baisse significative du tourisme au Maroc, pas de baisse importante. La Tunisie a subi très fortement et frontalement les contre-coups des attentats successifs. Aujourd'hui, il y a un redémarrage, Jean-Pierre Nadir le disait tout à l'heure, on a une progression des ventes de la Tunisie dans les agences de voyage de 220%. C'est euphorique, on peut être euphorique, mais 220% sur un très bas chiffre de l'an dernier. En revanche, il y a une destination qui progresse très fortement, 20%, ce qui est rarissime, c'est la Grèce.
Alors, vous l'évoquiez tout à l'heure, Jean-Pierre Nadir, est-ce qu'on est toujours dans des formats qui sont des formats courts où on repart en vacances d'une manière sur la longueur, en quelque sorte?
Alors, je pense que vous avez les deux phénomènes. Vous avez donc ce qu'on a évoqué plus près, moins longtemps, donc éventuellement moins cher. Et puis, vous avez en long courrier, donc ce qu'on voit que 25% des Français vont aller à l'étranger. On était plutôt à 22 l'an dernier, donc là, il y a plutôt une hausse. Et là, on voit qu'effectivement, donc on est plutôt sur du 12 jours, donc il y a une tendance à rallonger un petit peu donc la période. Si vous voulez, vous avez vraiment deux types de comportements. On mélange un peu les deux du reste, parce qu'on parle en général de vacances et de voyages, qui sont deux notions assez différentes. Il y a des gens qui prennent des vacances pour se reposer, puis il y a des gens qui voyagent pour découvrir des pays, aller à la rencontre des peuples. Ceux-là, en général, évidemment, donc vont prendre des périodes plus longues, parce que quitte à se déplacer, autant en profiter. Et du reste, c'est une bonne information. Lorsque vous prenez du séjour et que vous partez effectivement donc l'été, prenez du 15 jours, puisque vous allez trouver de la République dominicaine à 1 200 € en 15 jours, ce qui devient un très bon tarif. Alors qu'à la semaine, vous êtes plutôt autour de 900.
Alors, oui, Jean-Pierre Masse, vous voulez réagir?
La durée moyenne des séjours de vacances, c'est une dizaine de jours. Mais c'est vraiment une moyenne, parce qu'on part plusieurs fois dans l'année. On a une tendance de plus en plus forte à séquencer ses vacances, à séquencer ses départs, avec l'hiver, à l'automne et au printemps, des week-ends, et l'été, des vacances qui durent entre une semaine et 15 jours.
Ça, c'est pour les Français donc, qui partent en vacances. Maintenant, on va évoquer quand même les étrangers qui viennent en France. Et là aussi, on a des chiffres de nouveau qui sont à la hausse, puisque Jean-Yves Le Drian l'expliquait il y a encore quelques jours. En 2017, on devrait recevoir 89 millions de touristes étrangers. Là aussi, les chiffres sont en hausse, à peu près 5 à 6%. L'image de la France redécolle, elle a été abîmée. Elle redécolle ou pas auprès des étrangers, Jean-Pierre Masse?
Elle a été très abîmée par les phénomènes que vous connaissez. Elle redécolle de façon absolument évidente. Maintenant, au milieu de l'année, annoncer les chiffres à la fin de l'année, c'est un petit peu risqué.
C'est un peu optimiste.
Je ne sais pas si c'est optimiste. Je dis que c'est risqué. Sur ces 89 millions de touristes qui viennent en France, il y a, on le sait bien, dans tous les calculs, il y a des touristes qui traversent la France pour aller en Espagne. Les Allemands qui vont en Espagne en voiture sont des touristes en France, deux fois, à l'aller et au retour. Ce qui est important, c'est la recette touristique. Aujourd'hui, on est la troisième recette touristique.
Voilà, c'est là où ça commence à coincer.
Voire la quatrième, puisque la Chine, donc, va nous passer devant probablement.
Alors pourquoi on devient moins bon en termes de recettes? C'est-à-dire les gens viennent, mais finalement, on dépense moins.
Parce qu'en fait, si vous voulez, ces chiffres paraissent effectivement donc extrêmement importants et conséquents. Mais Jean-Pierre l'a dit, si vous voulez, quelqu'un qui part, un Anglais, un Allemand, un Belge, qui va en Espagne, il traverse forcément la France à l'aller et au retour. Donc, si on le compte deux fois, clairement. Nous, on l'a eu à peine une nuit, donc, et les Espagnols l'ont eu 7. Donc forcément, ils dépensent plus en Espagne, même si effectivement donc, le niveau de vie donc, est plus faible en Espagne.
On l'a souvent eu pour un plein d'essence.
Sandra Ouabian, est-ce qu'il y a quand même un problème d'accueil aujourd'hui en France? C'est quand même un problème récurrent. Et là, je vais apporter le témoignage de Étienne, hein, qui vient de nous dire sur Internet que serait-il possible de faire pour l'accueil des touristes pour qu'ils soient meilleurs dans les aéroports parisiens. La manière dont on nous accueille, dont on accueille les touristes, est une honte. C'est vrai que c'est un vrai thème d'actualité quand on voit des files d'attente quand on arrive dans les grands aéroports parisiens, que vous avez deux personnes, deux douaniers pour accueillir 500 personnes. C'est pas au niveau, faut le reconnaître. Aujourd'hui, on voit bien.
Les capacités d'accueil, en tout cas du point de vue des Français, sont plutôt bien évaluées. Du point de vue des étrangers, je laisserai parler mes deux confrères, mais les Français ont un regard plutôt positif sur l'accueil français, sur les activités qu'on peut réaliser. Ils ont un peu plus de questions autour des questions de budget, en fait.
Jean-Pierre Nadir.
Bah, ça c'est vrai, c'est évident que d'aller en Espagne ou au Portugal donc coûte moins cher donc que de rester en France. Ensuite de quoi, donc vous avez quand même des problèmes de sécurité récurrents, notamment à destination des pays asiatiques. On le voit bien de manière récurrente, des bus sont attaqués. Vous avez encore récemment donc à Roissy.
On évoquait l'accueil en France.
Oui, mais enfin, ça si vous voulez, ça a vraiment beaucoup d'impact. Ouais. Quand vous avez des vidéos sur Facebook avec des bus qui sont attaqués à Roissy, ça a plus d'impact que trois douaniers donc qui manquaient et une queue d'une heure et demie qui a aussi beaucoup d'impact, bien évidemment. Et donc, c'est pour ça que Le Drian, si vous voulez, dans sa vision extrêmement optimiste, qui reprend d'ailleurs celle de Fabius, qui était d'atteindre les 100 millions de touristes donc, en France. Moi, je dirais que c'est très bien, la parole est créatrice, donc tant mieux, si effectivement donc, on est optimiste, mais ensuite, il faut mettre des moyens, il faut les mettre aux bons endroits. Donc, premier élément, l'accueil, évidemment, il faudrait qu'on ait davantage de douaniers, et on ne devrait pas accepter l'idée qu'il y ait effectivement donc, plus d'une heure de queue, on devrait tempérer. Et donc là, on sait qu'il y a des moyens aujourd'hui donc technologique pour faciliter effectivement donc le passage. Aéroport de Paris est très en retard, ils en ont mis quelques-uns qui en plus sont en panne. Donc là, c'est clair qu'il faut faire quelque chose et rapidement.
Jean-Pierre Masse. L'arrivée des touristes long courrier en France se fait essentiellement par Paris. Et on a un accueil que je qualifie de tiers-mondiste. Une longue attente mal organisée dans les aéroports. Si vous arrivez le matin fatigué par une nuit dans l'avion et que vous attendez une heure et demie, voire deux heures pour passer les contrôles de police, c'est insupportable. Il n'y a pas assez de postes de police. Ça ne dépend pas que d'Aéroports de Paris. Ça dépend du ministère de l'Intérieur également. Et ensuite, une fois que vous avez réussi à récupérer vos bagages, vous avez un moyen de transport entre l'aéroport et la capitale, qui est un moyen de transport préhistorique. Ça n'existe nulle part au monde. Le RER que vous prenez, le RER B, entre Roissy et la gare du Nord, c'est catastrophique.
Alors le constat, il est fait depuis des années.
Le constat est fait depuis des années.
Si on a les Jeux Olympiques,
alors,
peut-être on aura.
Qu'est-ce que vous conseillez aujourd'hui au gouvernement? Qu'est-ce que vous attendez effectivement aujourd'hui des pouvoirs publics pour améliorer effectivement cet accueil? Six domaines prioritaires ont été déterminés par le gouvernement, notamment effectivement l'accueil, la sécurisation des sites. Ça, c'est le premier. Qu'est-ce que vous attendez concrètement? Qu'on mette encore de l'argent dans les caisses pour que ça aille mieux?
Pas nécessairement. Je crois qu'il y a de la formation à faire. On a vraiment du retard en matière de formation générale de la population et formation des opérateurs touristiques qui reçoivent des touristes. C'est un des sujets majeurs à traiter.
Oui, moi je pense qu'au-delà de la formation, il y a aussi effectivement donc le système donc de fiscalité, notamment donc des saisonniers. Je pense que un des problèmes effectivement de la France, quand on dit que en France on n'a pas un accueil sympathique, c'est souvent lié effectivement à l'accueil dans les endroits où on retrouve les touristes, c'est-à-dire les restaurants, les cafés, etc. Et si vous prenez quelqu'un qui a une terrasse donc de café entre une journée ensoleillée et une journée sans soleil, si vous voulez, vous avez une différence énorme. Donc il faudrait faciliter, il faudrait mettre de la souplesse dans le système. On a un système qui est relativement figé, il faudrait y mettre un peu de souplesse pour justement pouvoir encaisser les chocs et être, parce que si vous voulez, un serveur tout seul qui sert 50 couverts, il peut pas être sympathique. Il essaie de faire du rendement et donc c'est souvent ce qu'on nous reproche dans les pays étrangers, que lorsque vous allez au restaurant, vous avez un contact sympathique avec les gens parce que à la fois il y a une culture du pourboire et en même temps ils ont le temps. Nous on n'a pas le temps, on est un pays qui n'a pas le temps. Il faut redonner du temps donc à l'ensemble de la chaîne.
Réflexion de Michel sur Internet: dans un contexte d'accueil des Jeux Olympiques, que penser d'un accueil français peu aimable, jamais en anglais? Il nous reste quelques années à progresser. Sandra Wabian, qu'est-ce que vous inspire la réflexion de Michel? Est-ce qu'on a d'abord progressé ou est-ce qu'on n'a pas du tout progressé? Donc là, évidemment, il y a encore une marche très, très grande.
Beaucoup d'images d'Épinal, en fait. C'est vrai que quand on parle des vacances, on retrouve tout un tas d'images. Donc l'imagerie du serveur qui est pressé, l'imagerie aussi d'un pays où on fait bon vivre, la Côte d'Azur. Donc il y a toute une imagerie qui entoure les vacances, en fait, et qui est un petit peu difficile à casser, je pense, avec le temps.
On retourne au standard avec Martine qui nous appelle de Lemeuf. On vous écoute, Martine.
Oui, bonjour. Moi, c'est juste une réflexion. Je prends votre émission en cours. Pour avoir voyagé à l'étranger, en fait, on se rend compte que la France est très sale, qu'on accueille très mal les touristes. Les prix sont élevés et j'ai beaucoup d'amis qui préfèrent passer leurs vacances à l'étranger plutôt que de les passer en France. Voilà.
Merci de votre témoignage, Martine. Illustration de ce dont on vient de parler.
Oui. Enfin, ceci étant, moi, alors, je vais dire, je pense que ça s'améliore quand même. C'est-à-dire qu'il ne faut pas rester non plus complètement négatif.
Alors, concrètement, où est-ce que ça s'améliore? Dites-nous.
Mais ça s'améliore à beaucoup de niveaux. Moi, je trouve qu'effectivement, donc, aujourd'hui, il y a une prise de conscience générale, et c'est ça le plus important, qu'il faut savoir accueillir les touristes, que de cet accueil, donc, dépend un pan de l'économie, que le tourisme, donc, c'est bon nombre d'emplois, donc, plus de 2 millions, vous l'avez dit, donc, direct et indirect, et même 3 millions si on met les emplois induits. Donc, il y a une prise de conscience générale, la nomination, enfin le tourisme adossé donc à un grand ministère, donc
ministère des Affaires étrangères,
hein. ça montre bien que même les politiques, si vous voulez, vous avez eu De Gaulle en 56, donc qui a eu un grand discours avec une vision pour la France, donc et puis ensuite finalement donc vous avez eu Hollande, c'est-à-dire que, et entre les deux le tourisme était un parent pauvre, donc enfin on découvre que le tourisme est un levier de croissance extrêmement important et qu'en plus évidemment donc on a un trésor en France et très très important, et encore une fois on répète toujours, emploi non délocalisable.
Tourisme, 8% du PIB, Jean-Pierre Masse.
Localement, individuellement, c'est vrai qu'il faut former les Français à l'accueil. Quand vous êtes à New York ou à Londres, que vous regardez un plan et que vous avez l'air perdu dans la rue, il y a toujours un Américain ou un Anglais qui vous demande où voulez-vous aller, est-ce que je peux vous aider ? À Paris, dans toutes les villes françaises, c'est pas nécessairement comme ça. Et de l'autre côté, il n'y a pas de plan d'aménagement touristique en France. Le dernier grand plan d'aménagement touristique, ça a été le plan Racine sous Pompidou, donc c'est de la préhistoire. Le dernier grand investissement touristique qu'il y a eu en France, c'est Euro Disney. Euro Disney qui doit avoir 40 ans, je crois. Hein.
Fortement dans nos chiffres. Quand on dit 89 millions, il y a 16 millions de gens qui vont donc chez Disney. Hein.
Et depuis, on vit sur nos acquis.
Alors, l'un des dossiers prioritaires, effectivement, de l'État, du gouvernement, c'est le soutien aux investissements. Dans quel domaine faut-il aujourd'hui investir pour, effectivement, améliorer la qualité de l'accueil et améliorer, effectivement, le tourisme en France? Jean-Pierre Masse.
On l'évoquait tout à l'heure, le transport des aéroports parisiens au centre-ville, les transports sans rupture de charge, et pas que des aéroports parisiens, des grands aéroports provinciaux également. Ça, c'est le premier domaine d'investissement. Le second domaine d'investissement, c'est la mise à niveau, l'aide à la mise à niveau de l'hôtellerie. Aujourd'hui, il y a encore des efforts à faire dans certaines catégories d'hôtels. Je crois que les hôteliers sont très sensibilisés à ce problème. Si on commence par ça, c'est déjà pas mal.
Sandra Wabian.
Oui, il y a peut-être autre chose à ajouter. C'est que là, on parle d'investissement pour un secteur économique. Mais on peut aussi voir les vacances au-delà de sa fonction économique comme une fonction importante. En fait, quand les gens partent en vacances, derrière, ils se sentent mieux, ils retrouvent leur quotidien avec un peu plus d'enthousiasme, ils découvrent les choses. C'est aussi un moment de lien social où on va rencontrer des amis, de la famille, etc. Et donc l'investissement, ce n'est pas seulement un investissement économique pour la filière, mais c'est aussi peut-être un investissement pour aider à partir tous ceux qui sont encore sur le bord de la route des vacances.
Et ils sont nombreux, hein, 40% des Français, on le disait tout à l'heure, ne partent pas en vacances. Jean-Pierre Nadien.
Oui, dans ces 40%, rappelons quand même qu'il y en a la moitié, à près de 20% qui n'ont pas envie de partir. Donc il y a aussi des gens que ça n'intéresse pas.
Et
on peut le comprendre. Non, pour revenir effectivement donc à la vision touristique donc de la France et à l'ambition qu'on pourrait se donner, regardez ce qu'on fait au niveau des Jeux Olympiques. On va se battre pour récupérer les Jeux Olympiques, on va y mettre beaucoup d'énergie, beaucoup d'investissement, beaucoup donc d'intelligence. Il y a plein de choses qu'on pourrait faire indépendamment des Jeux Olympiques. Moi, je ne comprends pas cette énergie et cette volonté frénétique d'avoir les Jeux Olympiques alors qu'on n'est même pas capable de réguler la circulation donc à Paris. Il faudrait mieux commencer par ça avant de s'intéresser effectivement donc à des grands événements. Alors on pourrait me dire oui, mais le grand événement va être l'élément déclenchant. On n'aurait pas besoin de ça. Donc la vision pour la France, c'est déjà qu'on est en retard en termes de chambres d'hôtel. Aujourd'hui, Jean-Pierre l'a rappelé, en 3 étoiles, donc au moins 3 étoiles, y compris donc à Paris, on a 100 000 chambres d'hôtel de moins que les Espagnols pour situer effectivement donc dans la compétition mondiale comment la place de la France. Ensuite, donc je pense que les maisons d'hôtes, on l'a évoqué tout à l'heure, on a là un potentiel formidable formidable parce que ça recrée du lien social dans toutes ces régions désertées. Prenez la Normandie. La Normandie, vous avez un tas d'endroits qui se sont complètement relancés grâce aux maisons d'hôtes. Vous avez des villages entiers qui ont repris vie, donc avec des commerces, avec toute une chaîne qui s'est recréée. Vous avez un troisième phénomène qui sont les marchés en France. Vous avez plus de 16 000 marchés donc de l'été. On devrait effectivement beaucoup plus cadrer les choses et mettre en avant les produits. Donc ce serait une vitrine pour les produits français. Moi, je pense que vous l'avez très bien dit, les vacances, en fait, le tourisme doit être vu dans une stratégie politique avec une vraie ambition et comme un levier qui va irriguer l'ensemble effectivement donc des autres éléments de la chaîne.
19h43 sur France Inter.
Stéphane Leneuf, le téléphone sonne sur France Inter.
Isabelle, vous nous appelez des Parsis, on vous écoute. Bonsoir Isabelle.
Oui, bonsoir. Donc moi, c'est juste un témoignage. Je disais, je suis propriétaire d'un gîte et de deux chambres d'hôtes, donc à Éparcis, qui est une toute petite commune du département de l'Aisne, et que je constate, et je suis pas la seule, que il n'y a pas d'adéquation entre le discours des politiques et les actes. Je disais à la personne que j'ai eue juste avant, que pour le département de l'Aisne, où j'habite, les gîtes génèrent un chiffre d'affaires d'environ 800 000 euros en réservation. Donc les gens qui réservent dépensent cette somme-là et on sait que par derrière, ça va rapporter sur notre territoire 3 millions d'euros. Et quand nous, on va demander à nos élus départementaux, c'est surtout eux, et régionaux, de nous débloquer un petit peu d'argent pour nous mettre des petits panneaux, nous faire des trucs un peu sympas, ben, tout ce qu'on entend tout le temps, c'est « il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent ». Or, nous représentons une manne, entre guillemets, on rapporte de l'argent sur notre territoire, je répète, nous ne sommes pas délocalisables, et en plus, on est généralement des très petites entreprises, hein. Ce sont même les hôtels, les restaurants, souvent ce sont des affaires plus ou moins familiales, les gens, ils travaillent, mais on n'est pas soutenus. Merci. Alors ça, ils parlent bien, hein. Ils font des beaux discours et ils nous aiment bien. Mais ça s'arrête là.
Merci Isabelle de votre témoignage. Vous étiez à Éparcis dans l'Aisne, Jean-Pierre Masse.
Oui, alors Isabelle a globalement raison. Ceci dit, le tourisme n'a pas besoin ne vit pas d'aumône. En revanche, elle se trompe sur un point, c'est que le tourisme est parfaitement délocalisable. C'est-à-dire que si les touristes ne viennent pas en France, ils vont ailleurs.
Non, mais elle parlait de son activité qui n'était pas délocalisable.
Son activité elle-même, oui, son hôtel n'est pas délocalisable.
Elle parlait du manque d'aide effectivement publique au niveau, on en a parlé depuis le début de cette émission, des infrastructures notamment.
Les transports en commun. S'occuper du transport des aéroports au centre-ville, je l'évoquais tout à l'heure, aujourd'hui, circuler en autocar. Les touristes viennent très souvent et se déplacent en autocar parce qu'ils ne sont pas isolés, ils ne sont pas seuls. Circuler en autocar et stationner en autocar à Paris, ça relève d'un parcours de combattant extrêmement difficile.
Donc, Jean-Pierre Nadir.
Oui, moi je suis assez bienveillant vis-à-vis d'Isabelle parce que encore une fois, je considère que ce sont eux les vrais ambassadeurs donc du tourisme en France et que si effectivement donc on parlait de l'accueil tout à l'heure, voilà des gens qui en général donc savent bien accueillir donc et donnent une bonne image de leur région et sont également donc en général donc des bons conseillers touristiques pour amener les touristes donc à faire autre chose dans leur région. Et puis s'il n'y a pas d'hébergement, de toute façon, il n'y aura pas de touristes. Donc ça commence effectivement donc à la racine. Et je pense qu'aujourd'hui, on a 22 000 maisons d'hôtes en France, on pourrait en avoir 44 000, on pourrait doubler. Donc voilà déjà une ambition. Et dernière chose, les politiques ne parlent jamais de chiffres. Chaque année, donc, le maire de New York fait un grand discours pour dire, cette année, on a eu tant de touristes en plus, on a fait tant de chiffres d'affaires en plus, tant de détaxes. Il y a une vraie vision business des politiques. Nous, les nôtres, ils ont une vision politique.
Là, Jean-Yves Le Drian a une vision business.
Non, il a 89 millions.
Il espère 100 millions d'ici 2020.
Mais il compte les touristes, il compte pas les retombées économiques.
Exactement.
Et ce qui est important, c'est les retombée économique. Et ce qui est plus important que le nombre de touristes, c'est la recette touristique.
Exactement, parce que ça permet de définir l'investissement. Ce qui a été dit là. À partir du moment où vous connaissez la recette, vous pouvez définir l'investissement.
On retourne au standard avec Lucie qui nous appelle de Mimizan. Bonsoir Lucie, on vous écoute.
Bonsoir, j'habite donc à l'année, moi, dans une station balnéaire landaise, sur la côte atlantique. Et je voulais savoir si dans le secteur touristique, globalement, on avait fait des progrès où il y a des formations spécifiques pour maîtriser les langues étrangères, anglais, allemand, espagnol, italien, russe, arabe.
Merci oui. Lucille. Sandra Wabian, on a fait des progrès ou pas? Est-ce qu'il y a des formations spécifiques maintenant de langue pour le tourisme?
Alors, absolument aucune idée. Je ne sais pas si...
Jean-Pierre Masse.
Oui, on a fait des progrès, mais des progrès insuffisants. Lucie a tout à fait raison. On est encore en retard dans la pratique des langues étrangères. Et puis quand on fait des programmes de formation, entre la mise en place du programme, sa préparation, la mise en place et les premiers élèves, étudiants qui sortent de la formation, il s'est passé 5 ans, et au cours de ces 5 années, les besoins ne sont pas nécessairement les mêmes. Mais l'accent mis sur la pratique des langues étrangères, oui, il n'y a pas de doute.
Jean-Pierre Nadia.
Oui, globalement, de toute façon, les jeunes français donc, parlent tous maintenant quasiment anglais. Donc déjà, c'est une évolution extrêmement positive par rapport à ma génération.
Les nouvelles générations parlent anglais.
Oui, elles parlent anglais parce que mécaniquement, elles jouent avec des jeux en anglais, donc elles regardent des séries en anglais, elles écoutent de la musique anglaise. Et donc oui, donc je pense qu'aujourd'hui, globalement, en tout cas sur ce plan, on s'est amélioré. On n'est pas les champions du monde, très clairement. On n'a pas encore le niveau des Hollandais ou des Allemands en matière de langue étrangère. Ça, c'est incontestable, mais on s'est quand même bien amélioré.
Jean-Martin, vous nous appelez de Toulon. Bonsoir, on vous écoute,
oui,
Jean-Martin.
Bonsoir. Oui, je faisais juste une réflexion. Moi, je rentre de 16 ans à l'étranger et je retourne en France et je redécouvre ce pays qui est magnifique. Mais ce dont je m'aperçois, c'est qu'on a des offices de tourisme qui auraient peut-être besoin d'être repensés. Ils sont un petit peu poussiéreux, avec des personnels hyper accueillants, des gens très chouettes. Mais bon, on repart avec plein de petites fiches de ceci, cela. Il serait peut-être temps de repenser l'office de tourisme un peu 3.0.
Oui, tout à fait.
Oui, Jean-Pierre Mazz vous répond, Jean-Martin.
Au-delà de l'office de tourisme, aujourd'hui, l'office de tourisme physique, il ne correspond plus tout à fait à la demande d'information du touriste, du voyageur qui veut être informé avant de partir de chez lui et pas nécessairement en arrivant à destination et qui veut être informé et relié en permanence à l'information. Et puis, le second point qui revient sur l'intervention de Jean-Martin, c'est le millefeuille touristique français. On a un millefeuille touristique qui est épouvantable. Il y a des compétences qui sont attribuées aux communes, aux communautés de communes, aux départements, aux régions et à l'État.
Des offices du tourisme pour des communes, pour des régions, pour des départements.
Voilà. Et autant quasiment de logiciels informatiques. Parce que la première chose à faire, ce serait de normaliser tout ça et qu'on ait effectivement donc des contenus, un système d'information qui partirait du haut et qui redescendrait vers le bas. Là, chacun à son système et les systèmes ne peuvent même pas communiquer entre eux.
Sandra Wabian.
Oui, moi, j'aurais pas tout à fait la même vision parce que je pense que essayer justement d'organiser l'information aujourd'hui, il y a un peu une vision un peu dépassée dans le sens où les individus vont aller chercher les informations de manière générale sans forcément passer par un canal officiel descendant, comme vous le disiez, mais plutôt aller regarder d'autres commentaires qui ont été faits par des internautes, des gens qui sont déjà partis. Ils vont aller sur des sites qui vont les intéresser. Donc, je sais pas s'il y a forcément besoin d'organiser la filière de l'information.
Les offices du tourisme n'existent.
Oui, mais ils sont peut-être effectivement un peu dépassés.
Moi, je parlais plus de la filière de la promotion que de la filière de l'information. Okay. L'information, il faut qu'elle soit essentiellement en ligne. Aujourd'hui, on a envie d'avoir de l'information, non pas à l'heure d'ouverture de l'office du tourisme, mais la nuit, le soir, le matin.
Mais les offices du tourisme ont quand même fait beaucoup d'efforts en matière de numérisation. Vous allez aujourd'hui dans n'importe quelle ville, dans n'importe quel département, n'importe quelle région touristique. Effectivement, Jean-Martin nous le disait, c'est un petit peu désuet, mais enfin, tout le monde a un site internet. Maintenant, tous les offices du tourisme ont un site internet.
Justement, plus ou moins bien fait, avec plus ou moins de contenus intéressants. Et puis après, ces offices de tourisme sont en compétition les uns avec les autres. Et moi, je reviens sur mon idée. Je pense qu'effectivement, donc, vous devez avoir une grande vitrine pour la France. La France a la chance d'avoir des grandes marques. De toute façon, quand vous rentrez sur Internet, vous rentrez par des marques. Donc, en France, vous rentrez par Paris, mais vous pouvez aussi rentrer par le Mont-Saint-Michel, vous pouvez rentrer par Saint-Tropez. On a la chance d'avoir des grandes marques. Aujourd'hui, elles sont très peu exploitées, en tous les cas, mal exploitées, dans une dynamique globale. Donc, chacun répond à son petit bout d'information. Ensuite, l'information, évidemment, qu'elle n'est pas organisée par l'Office de tourisme et que chaque visiteur devient un ambassadeur et il va de son commentaire, et chaque commentaire effectivement est important. Ceci étant, ce qui est important, c'est que l'office, lui, puisse savoir ce qui se passe, puisse avoir une vision, et puis après répondre à toutes ces questions. Aujourd'hui, très franchement, on a beaucoup de mal à le faire, parce que on est mal organisé en France, on a très peu de moyens. Atout France, qui doit gérer effectivement tout ça, se retrouve confronté donc à un tas de systèmes donc différents, à un tas de gens différents, à un tas d'ambitions différentes, et il est pas rare de voir sur Internet des offices touristes qui se battent sur les mêmes mots-clés, avec des enchères donc qui montent, alors qu'ils devraient s'organiser pour être évidemment dans une dynamique commune.
Jean-Pierre Mazz.
Le budget de promotion d'Atout France par touriste est plus de 2 fois plus faible que le budget espagnol.
Je voulais revenir sur l'image de marque aujourd'hui de la France vis-à-vis des étrangers. Les étrangers reviennent, mais quelle image ont-ils effectivement de la France? On a parlé tout à l'heure des déficiences en matière d'accueil, mais quelle image aujourd'hui projette la France à l'étranger?
On a des atouts extraordinaires.
On les connaît, les atouts. Oui. Mais je veux dire, en termes d'image, qu'est-ce que l'on produit comme image à l'étranger? On le sait, pendant 2 ans, ça a été très difficile avec les attentats. Aujourd'hui, est-ce que cette image redémarre en quelque sorte? Quand on a Donald Trump qui est reçu par le président Macron, est-ce que ça, c'est bon pour le tourisme?
C'est excellent.
C'est excellent.
C'est excellent. Et c'est la même chose pour Poutine, reçu par Macron. C'est la même chose. C'est excellent pour le tourisme. On a quand même, à l'étranger, quand l'effet faits, des attentats est estompé. Et ça prend du temps, ça prend une bonne année, disons. On a l'image d'un pays où il fait bon vivre, où on mange bien, qui est extrêmement
accueilli. C'est toujours un peu la même image.
Mais oui, mais elle est bonne.
Qui persiste.
Qu'est-ce que vous voulez?
Mais là-dessus, on est quand même en compétition avec des gens qui ont fait des progrès.
Et y a
les Espagnols,
aussi,
les Italiens.
Sandra, il y a peut-être aussi un autre élément qui distingue la France, c'est quand même son patrimoine culturel. Vous parliez des marques comme le Mont-Saint-Michel, il y a aussi le Louvre.
L'Italie aussi a un énorme patrimoine culturel.
Mais c'est quand même des noms qui sont connus mondialement et qui font venir des touristes.
Oui, là, pour le coup, c'est pas localisable. Versailles n'est qu'à Versailles, ça c'est clair.
On est tous d'accord là-dessus.
Le fait qu'on ait tout en même temps, ou à peu près tout en même temps, c'est ce qui fait que les politiques se sont désintéressés du tourisme. Ils ont dit ça marche tout seul, on a tout ce qu'il faut pour que ça marche, c'est pas la peine qu'on s'en occupe.
Donc maintenant ça marche, ça remarche bien, mais il y a quand même des grosses fragilités. Donc vous attendez quand même des pouvoirs publics quelque chose de prégnant parmi ces 6 priorités qu'on a évoquées. Quelle serait la première, effectivement, on a vu les transports, les infrastructures, mais est-ce qu'il y a d'autres choses que vous souhaiteriez qui soient mises sur la table et qui soient mises en œuvre très vite? Jean Germas.
Je l'ai déjà dit, mais je mettrai vraiment prioritairement l'accent sur la formation. Et la formation au sens large, la formation des opérateurs touristiques, des opérateurs chargés de l'accueil, et la formation, j'ai envie de dire, la culture des Français aux touristes. Le Français a une tendance assez forte au repli sur soi, pas nécessairement une grande ouverture d'esprit, et il faut leur expliquer que le tourisme, c'est pas polluant, que le tourisme, ça crée de la richesse, ça crée des emplois, qu'ils en bénéficient et qu'ils en auront des retombées économiques directes.
Juste sur les Français qui sont repliés sur eux-mêmes et on est là aussi un petit peu dans les clichés. Les Français aujourd'hui, ils voyagent, ils ont accès au monde entier sur leur smartphone. Donc ils sont pas tous complètement recroquevillés avec leur béret et leur baguette sans vouloir répondre aux touristes. Donc moi je dirais juste que dans les investissements et dans les choses qu'il y a à faire, il y a un peu la première remarque de votre auditeur qui est que la question du tourisme durable, c'est vraiment un enjeu, une question et une voie de développement en fait, puisque on voit bien que le tourisme de masse, l'idée qu'on va tous aller sur des plages, dans des cars, elle a fait long feu. Les gens, ils ont envie d'être toujours un petit
tourisme
peu plus
intelligent.
Tourisme intelligent, tourisme plus individualisé. Ça fait longtemps qu'on en parle en fait, mais ça serait bien qu'aujourd'hui on passe vraiment le pas.
Jean-Pierre Nadir.
Oui, enfin après, je pense qu'encore une fois, il y a effectivement donc le marché des vacances. Et le marché des vacances, c'est quand même une question de coût. On l'a dit, il y a des questions de budget. Et donc quand vous avez des questions de budget, forcément qu'à un moment donné, donc vous allez concentrer quand même des gens au même endroit. C'est ce qu'on retrouve effectivement dans les campings, c'est ce qu'on retrouve dans les clubs de vacances. Vous avez 2 millions de gens qui vont aller dans des clubs de vacances. Ils y vont parce que il y a un rapport effectivement donc qualité-prix qui est relativement unique, et c'est le développement du l'inclusive. Mais je pense que c'est pas incompatible, moi, avec du tourisme effectivement donc plus intelligent, avec une vision un petit peu écologique et éthique. Vous avez des zones en France qui sont complètement désertées par le tourisme. Prenez la Guadeloupe. On les a tout formidables en Guadeloupe, sauf qu'on vous dit ah les Antillais, ils aiment pas les touristes, ils ont pas le sens du service, etc. Bon, enfin les Antillais ils sont formidables, ils sont marrants, ils ont de l'énergie. Donc si on explique ce que Jean-Pierre a très bien dit, qu'on va créer de l'emploi, il y a 75 000 chômeurs donc en Guadeloupe. On a détruit donc près de 5 000 chambres d'hôtel en Guadeloupe depuis 10 ans. Bah, 5 000 chambres d'hôtel, c'est 10 000 emplois. Voilà. Donc on peut complètement relancer la filière. On peut faire en Guadeloupe donc un tourisme intelligent autour donc de pistes cyclables, parce que c'est très facile effectivement donc de circuler. On peut plutôt que de faire de la banane, donc sur lequel on est en compétition avec des gens qui nous battent parce qu'ils font moins cher que nous, on pourrait produire des mangues, créer une dynamique absolument donc incroyable. Voilà, moi j'ai une vision très positive et très dynamique du tourisme.
Je note quand même que les réservations bondissent 45% oui, sur les territoires d'outre-mer. Repars, hein, donc ça repart aussi. Au standard, Mahmoud, vous nous appelez de Saint-Cast-le-Guildo, on vous écoute.
Oui, bonsoir. Oui, c'est vrai que le développement du tourisme, je trouve que c'est quelque chose qui est formidable, et on est dans un pays extraordinairement beau, c'est une chance extraordinaire. Non seulement le pays est beau, mais il regorge des compétences, des créativités, des gens qui sont pleins de talents. Et je pense que on peut vraiment chacun dans son coin apporter quelque chose, et quelqu'un parlait tout à l'heure de marchés, qu'il n'y a pas suffisamment de marchés. C'est vrai qu'il n'y a pas suffisamment de marchés, et je pense que le marché nocturne, c'est quelque chose qui contribue formidablement bien à ça, pour faire connaître la France et les terroirs, parce que quand on fait un marché nocturne qui est réservé aux producteurs locaux, aux créateurs, c'est la vitrine de la France, et c'est les gens, quand ils sont dans un rayon à 20, 30, 40, 50 km, ils peuvent bien prendre une voiture et dire, bah tiens, tel endroit, il y a un petit marché nocturne ce soir où on va rencontrer des petits producteurs. Et surtout les étrangers ou les gens qui viennent d'autres des régions de France. Ils peuvent bien acheter, ils vont acheter de la confiture, du miel, de produits artisanaux, les marchands de cuir, les petits créateurs des bijoux, les petits créateurs des petits meubles, des choses qu'ils vont pas trouver chez eux dans les régions où les étrangers, quand ils vont repartir, ils vont ramener des choses comme ça. Ça, je trouve ça formidablement à la portée de tout le monde, et c'est pas quelque chose d'excessivement difficile.
Merci,
ou compliqué.
Merci Mahmoud, on a compris effectivement l'attractivité du territoire. Là, c'est vraiment un bel exemple, Jean-Pierre Mas.
C'est l'atomisation du tourisme, et Mahmoud a totalement raison. Et on voit actuellement le développement du tourisme de découverte économique. La soif des visiteurs pour visiter, découvrir les entreprises, découvrir le savoir-faire.
On appelle ça le tourisme expérientiel, c'est ça ?
Oui, que ce soit des très grosses entreprises ou des toutes petites activités. Et, le touriste est devenu beaucoup plus curieux qu'il ne l'était par le passé.
Jean-Pierre Nadia ?
Oui, alors Mahmoud, donc, on pourrait ensemble faire un appel à la mairie de Paris pour simplement dire que le marché de Noël, donc sur les Champs-Élysées, si on pouvait éviter les produits chinois et mettre en avant des produits du terroir français, ce serait quand même mieux.
Des vrais produits chinois,
mais le marché de Noël, ce serait bien quand même qu'on tire nos terroirs.
Sandra Wabian.
Oui, au-delà des marchés, en gros, les Français et globalement les touristes, ils ont envie de profiter de leur temps de vacances. Et donc, ils vont en profiter pour découvrir des activités, mais aussi pour faire du sport. Beaucoup de voyageurs font du sport pour avoir des activités culturelles et aussi pour aller dans des festivals. Il y a de plus en plus de festivals chaque année qui se développent.
Et les festivals, ça attire énormément de touristes. Effectivement, c'est une belle vitrine pour les étrangers, les festivals culturels de l'été. Merci à tous les trois. On arrive au terme de cette émission.